sirènes gueulent et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà, tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai allé les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission radio de l'Envolée en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne 106.3 FM et rediffusée sur une quinzaine d'autres radios associatives en France au cours de la semaine suivante. On remercie toutes ces radios au passage comme d'habitude. L'Envolée, c'est une émission de radio contre toutes les prisons qui donne la parole aux premiers et premières concernés, les prisonniers et prisonnières et leurs proches. Et comme l'Envolée n'existe que par vos contributions, vous pouvez écrire à l'Envolée par la poste. Je vous donne l'adresse, l'envolée-fpp. L'adresse, c'est 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@l'envolée.net. L'envolée tout attaché sans accent.net. Vous pouvez nous contacter par téléphone aussi, donc laisser un message sur le répondeur ou des textos, voire tenter d'utiliser Signal au 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Et sinon, vous pouvez suivre notre activité et nos publications sur le site internet l'envolée.net. Donc toujours l'envolée tout attaché sans accent. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, l'envolée journal, et éventuellement tenter sur X et sur Facebook. Voilà, donc ce soir c'est une émission hors les murs. Cette émission est diffusée pour la première fois le vendredi 5 décembre 2025. Donc c'est une émission hors les murs. Vous aurez remarqué, chers et fidèles auditeurs et auditrices, que environ la moitié des émissions cette année n'est pas en direct, mais réalisée hors les murs. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rediffuser une émission qui a été réalisée par la Sellette dans son émission qui s'appelle Tapage sur la radio Canal Sud à Toulouse. La Sellette, c'est un blog de chronique de la violence judiciaire qui raconte et analyse comment fonctionne la justice avec des cas précis. Et là, l'émission qu'on a envie de vous rediffuser ce soir s'appelle « L'association de malfaiteurs terroristes, un procès d'intention ». Donc cette émission revient sur l'affaire du 8-12, l'affaire dite du 8-12 dont on vous a parlé régulièrement à cette antenne. Récemment, on vous en a parlé avec Libre Flow dans l'émission du 31 octobre. Donc l'affaire dite du 8-12, c'est l'arrestation, puis la détention préventive et condamnation d'un groupe de personnes pour, entre guillemets, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ceci malgré l'absence de passage à l'acte et l'absence de projets concrets caractérisés, même après 3 ans d'enquête et 3 semaines de procès. La justice antiterroriste, en gros, fait qu'elle peut criminaliser des intentions. Alors, comment prouver des intentions ? Comment est-ce qu'on peut se défendre quand on nous prête des intentions? Comment faire face à cette mécanique infernale? C'est B, un des condamnés de l'affaire du 8 décembre, qui en parle, qui revient sur son expérience dans cette émission. Et nous, ce qui nous semble, pourquoi on a envie de rediffuser, de vous faire écouter cette émission, c'est parce qu'elle propose un récit en détail sur ce que c'est que la justice antiterroriste, comment elle fonctionne et quels sont ses usages réels et concrets, des mécanismes vraiment infernaux. Mais même si la justice antiterroriste est présentée comme une justice exceptionnelle, comme à enjeu exceptionnel, justice exceptionnelle, en fait, elle est aussi, il me semble, exemplaire de ce qu'est le droit, de ce qu'est la justice. Même si c'est une version poussée à l'extrême, on y retrouve en germe beaucoup de choses qui se passent dans la justice ordinaire en général. Et la justice antiterroriste, tant qu'elle s'applique, ses pratiques se diffusent dans tout le champ pénal. Voilà. Donc, dans cette histoire particulièrement terrible qu'a vécu B et qu'il va raconter, on peut voir aussi des choses qui sont arrivées à toutes les personnes soupçonnées de terrorisme ou d'avoir des intentions terroristes, uniquement des intentions, mais aussi de nombreuses personnes juste soupçonnées d'avoir des intentions criminelles, de faire partie d'une association de malfaiteurs. C'est appliqué bien au-delà du terrorisme dans de nombreux cas dit criminel, et c'est une manière de criminaliser quand il n'y a pas d'effet matériel à criminaliser, à pénaliser, dans tout un tas d'affaires de vol, de trafic de stupéfiants, criminaliser simplement des contacts, des connaissances, des soi-disant regroupements, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que B nous raconte comment la garde à vue et les stratégies policières sont des stratégies mécaniques infernales pour faire cracher le morceau, faire dire des choses. Et ça, pareil, évidemment, ça a été poussé à l'extrême dans leur cas, mais tous les récits de garde à vue disent quand même, en général, que la garde à vue, ça sert à vous broyer pour vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, ce que vous n'avez pas forcément envie de dire et ce qui n'est pas vraiment dans votre intérêt ou celui des autres. Voilà, donc tout ça pour dire que pour nous, on ne sait pas si la justice antiterroriste est si exceptionnelle que ça. En tout cas, elle est exemplaire. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos expériences aussi de la justice. Et en attendant, je vous laisse à l'écoute de cette émission Tapage réalisée par l'équipe de la Sellette qui s'intitule « L'association de malfaiteurs terroristes, un procès d'intention ».
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Quel antécédent judiciaire, vous avez déjà été
condamné.
C'est encore, y compris, le fonctionnement de la
République. Les
policiers là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien sur Tapage, une émission sur les violences judiciaires. C'est une émission qui passe sur Canal Sud 92.2 tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. C'est la deuxième émission qu'on fait sur la justice antiterroriste. Le mois dernier, on a reçu Vanessa Codaccioni qui nous a présenté son dernier livre « Comment les États répriment ». Et on avait justement parlé d'une des caractéristiques de cette justice-là, la justice antiterro, qui est d'être une justice qu'on pourrait appeler préventive en quelque sorte. C'est-à-dire une justice qui ne juge plus seulement des faits ou des actes commis, mais qui peut aussi condamner des intentions. Et ça pose la question de la preuve. Comment est-ce que l'accusation prétend prouver une intention? Et surtout, comment est-ce qu'on peut se défendre d'une intention qu'on nous prête? Pour parler de ça, ce mois-ci, on va recevoir B, un des co-accusés de l'affaire dite du 8 décembre 2020. On va commencer d'abord par un rappel rapide de cette affaire. On va donner quelques repères, mais bien sûr, on reviendra en détail sur tout ça avec toi, B.
Le matin du 8 décembre 2020, 9 personnes sont arrêtées par la DGSI, les renseignements intérieurs. 2 sont relâchés et les 7 autres sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes. 5 sont placés en détention provisoire. Ces personnes sont jugées à l'automne 2023. On leur reproche de projeter des actions violentes contre les forces de l'ordre, même si l'enquête n'a pas permis d'identifier un projet d'attentat précis. Dans ce procès, Libre Flow, c'est le principal accusé. Toute l'affaire est construite autour de lui. Les autres accusés le connaissent tous, à des degrés divers, mais ils ne se connaissent pas forcément entre eux. En 2018, Libre Flow est parti au Rojava, au Kurdistan syrien pour combattre l'organisation terroriste État islamique. Depuis son retour, il est surveillé par la DGSI. En avril 2020, pendant le confinement, Libreflo et une partie des co-accusés passent plusieurs semaines ensemble sur un terrain. Durant ces quelques semaines, parmi diverses activités, Airsoft, qui est un peu comparable au paintball, c'est un loisir, et fabrique des pétards.
C'est à ce moment-là que la DGSI va remettre un rapport au parquet national antiterroriste expliquant que Libreflo est en train de constituer un groupe d'ultra-gauche en vue de commettre des actions violentes. Pendant les mois qui suivent, les camions dans lesquels il et elle vivent sont sonorisés et tout le groupe est mis sur écoute jusqu'à leur arrestation le 8 décembre 2020. À l'issue du procès, il et elle sont jugés coupables d'association de malfaiteurs terroristes et lourdement condamnés. Les peines vont de 2 années de prison avec sursis pour la plus légère à 5 années de prison, dont 2,5 avec sursis probatoire pour la plus lourde. Donc à ce stade, on a une question, Jonathan. C'est quoi l'association de malfaiteurs terroristes ?
Bah, c'est compliqué et simple à la fois. C'est simple parce que finalement, on a une définition qui nous est donnée par le code pénal. C'est compliqué parce qu'on n'y comprend rien. Déjà, c'est l'adjonction de 2 trucs peu clairs. 1. Qu'est-ce que le terrorisme ? 2. Qu'est-ce qu'une association de malfaiteurs ? Association de malfaiteurs, on le sait, c'est un délit qui existe depuis le 19e siècle, qui a notamment été renforcé et élaboré pour réprimer le mouvement anarchiste. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait arrêter les gens avant qu'ils ne passent à l'acte, avant même la tentative. Et on a une définition, je vous donne celle du code pénal du coup, le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une infraction. En l'espèce, d'une infraction terroriste. Et c'est quoi le terrorisme ? Là, on est encore dans le flou. C'est une infraction lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Alors, c'est toujours très très embêtant en droit répressif quand on a des infractions qui sont aussi peu précises. Parce que le droit répressif, par définition, c'est un droit qui est très attentatoire aux libertés individuelles et que pour se prémunir de l'arbitraire du juge, on doit pouvoir précisément comprendre et dire qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et là, vous voyez que déjà, un groupement formé ou une entente établie, bon, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Au tout début, d'ailleurs, la jurisprudence disait que cette entente établie ou ce groupement, il devait être composé de plus de 3 personnes. Il devait y avoir une hiérarchie entre ses membres. Et petit à petit, on a un peu abandonné tout ça. Peu importe qu'il y ait une hiérarchie, un couple a même été considéré comme une association de malfaiteurs, donc 2 personnes suffisent. Bientôt, on pourrait être une association de malfaiteurs à soi tout seul si ça continue. Et peu importe que le groupe ou cette entente, elle existe depuis 1 an, 2 ans ou quelques jours. Parce qu'une simple réunion, une simple rencontre va pouvoir être considérée comme une entente. Peu importe aussi que les gens membres de cette association se connaissent ou pas. Alors ça c'est quand même un peu délirant, c'est-à-dire que vous pouvez être condamné pour une association avec des gens que vous connaissez pas. Et, mais on va dire que parce que vous avez quelqu'un en commun, quelque part, vous faites partie de cette grande association. Bon, on voit déjà c'est fumeux et ça va être difficile à prouver. Alors cette association, nous dit le texte, elle est établie en vue de la préparation. En vue de la préparation, comment on va prouver ça ? On va réprimer un projet. Cette préparation ou cette entente, elle est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ça aussi, c'est peu clair. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un ou plusieurs faits matériels. Pas forcément une infraction. C'est-à-dire que même quelque chose de légal, on va pouvoir considérer que c'est un fait matériel. Et en fait, on va se servir, les juges en tout cas vont se servir de ça pour prouver l'entente. On va se servir de quelques faits matériels, une rencontre, etc., en disant, mais vous voyez, là, il y a une entente. Et cette entente, elle est en vue de participer à une infraction terroriste, laquelle est en vue de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Bon, je referme cette parenthèse-là, mais en fait, on voit bien, rien que quand on décortique ce texte, que le risque d'arbitraire, il est majeur parce que les juges en font ce qu'ils veulent. Et normalement, on a en France une cour de cassation, c'est le dernier degré de juridiction, qui est là pour rappeler un peu les règles et le fait qu'il faut que les choses, les condamnations soient précises, qu'elles soient motivées. Et bien là, elle ne le fait pas. Elle considère qu'il n'y a pas de problème à ce que l'entente soit déduite de faits matériels, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Il n'y a pas de problème à ce que, par exemple, un membre d'une association de malfaiteurs n'ait même pas une idée précise de ce qu'on reproche à l'association de malfaiteurs de faire. C'est-à-dire que quel acte terroriste ? Peu importe, nous dit la chambre criminelle, que les personnes sachent de quel acte terroriste il s'agit. Même une idée vague sur la possibilité de peut-être un jour commettre une infraction peut suffire pour condamner l'association de malfaiteurs. Alors c'est vrai que quand on voit tout ça et quand on entend tout ça, il y a quand même une question, c'est comment on se défend d'une accusation pareille.
Et c'est là-dessus qu'on va, c'est notamment ça dont on va parler avec toi, B. Et pour faire ça, on va tout simplement revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé, en commençant par l'interpellation, ensuite la garde à vue, l'instruction, puis le procès. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux commencer par nous raconter la manière dont s'est passée l'interpellation?
Oui, bon, déjà, bonjour à tous, merci de l'invitation. L'interpellation s'est passée le 8 décembre à 6h du matin, donc l'heure légale pour les interventions de ce genre. Donc à cette heure-là, on dort, on est tranquillement dans son lit. Et moi, à ce moment-là, j'ai entendu une personne qui dormait dans une chambre voisine de la mienne se mettre à hurler. Et du coup, je me suis réveillé d'un bond et j'ai entendu que ça gueulait « police, police ». Et moi, j'ai décidé de sortir de la pièce pour pas qu'il vienne défoncer ma chambre, quoi. Et donc là, on se retrouve en face d'une cinquantaine de gens surarmés. L'interpellation s'est faite par les GAO, c'est le groupe d'appui opérationnel. Donc c'est un peu un GIGN, quoi. Et du coup...
Une cinquantaine de personnes.
Ouais. Alors, ce que j'ai vu de visu dans le lieu de la maison où j'étais, c'était une cinquantaine de personnes. Et en fait, quand on est sorti de la maison, ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça, quoi. Il y avait, c'était, je pense, 150-200 personnes faciles. Pour cette intervention, quoi. C'était énorme. Il y avait des drones, il y avait des camions, il y avait des chiens, enfin, il y avait...
Et on est bien d'accord qu'à ce moment-là, tu es la seule personne qui vient d'interpeller.
Non, dans cette maison, on était deux à être interpellés.
Vous étiez deux à être interpellés, ouais. D'accord.
Et du coup, c'est interpellation, plaqué contre mur, fusil d'assaut sur la tempe. Tous, ils sont en stress parce qu'ils pensent aller cueillir un dangereux bandit armé jusqu'aux dents, prêt à se défendre. Et en fait, du coup, ils sont à fond, quoi, donc ils se mettent tous à hurler... Ils sont tous très tendus. Et moi, je comprends très vite qu'ils sont venus pour moi parce que quand ils nous rassemblent tous dans la même pièce, lorsque je rentre dans la pièce, l'une des seules personnes qui n'est pas cagoulée lors de cette intervention m'appelle par mon nom et mon prénom. Du coup, je comprends qu'ils sont là pour moi à ce moment-là, quoi.
Tu comprends qu'ils sont là pour toi, mais à ce moment-là, est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'ils te reprochent, de ce qui se passe ?
Non, absolument aucune. Là, à ce moment-là, je comprends pas du tout. Je sais qu'ils sont là pour moi, mais je comprends pas du tout pourquoi je me fais arrêter, quoi. Et du coup, l'intervention dure très longtemps parce que moi, ils me mettent à l'écart. Ils me signifient ma mise en garde à vue. Et puis après, c'est tout un moment de perquisition où ils m'emmènent d'un lieu à un autre. On fouille mon camion qui est dehors dans le froid périgourdin. Je suis en caleçon parce que je suis sorti de mon lit en caleçon. Et du coup, je passe une heure dans le froid périgourdin, me noter en caleçon pendant qu'ils sont en train de complètement démonter mon camion. Après ça, j'ai beaucoup d'attentes parce que vu qu'on est deux à être interpellés, le copain qui sont venus chercher aussi n'était pas sur le lieu à ce moment-là. Et du coup, ils me disent qu'on partira pas tant que lui sera pas là avec nous. Et du coup, moi, on m'a installé une camisole de force. Et puis là, une longue attente de plusieurs heures s'installe à ce moment-là, quoi.
Qu'est-ce qui se passe là? Il te parle
pendant la perquisition, il parle un petit peu. Il pose des questions, il demande. Enfin, il demande où est-ce qu'il y a des choses. À un moment donné, ils me disent qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Je dis ben, j'en sais rien. J'imagine que c'est un placard à balai. Ils disent bon ben on va l'enfoncer. Je suis là ben, peut-être que si vous demandez gentiment la clé, on va vous la donner. Forcément, ils défoncent la porte. Puis derrière, méga surprise, c'était déballé. Ouais. C'était incroyable quoi. Du coup, ils ont défoncé une porte pour déballer. Et puis après, je suis dans une voiture. J'ai attendu longtemps dans une voiture, entouré de gorilles surarmés, cagoulés. Et là, non, il parle pas, quoi. Juste, je suis dans la tente, j'ai froid, j'ai la camisole, et puis j'attends.
T'as demandé à un avocat dès la notification de tes droits ?
Non. Ils m'ont proposé lors de ma mise en garde à vue. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis persuadé, enfin, je sais pas pourquoi ils m'arrêtent, mais je suis persuadé que dans les 4 heures, je serai sorti du commissariat.
C'est un malentendu, quoi.
Que c'est un malentendu, ouais. Voilà, quoi. Et puis, je suis instantanément rentré dans un état de choc, de sidération qui fait que mon cerveau il est complètement ralenti, c'est de la choucroute. Et donc, non, je ne prends pas d'avocat à ce moment-là.
Un fusil, comme tu dis, un fusil sur la tempe, l'aube, 150 personnes surarmées, la camisole, les cagoules.
Ouais.
C'est un peu fou. Donc, j'imagine qu'à un moment, il t'emmène à Levallois-Perret. À ce moment-là, tu comment ça se passe le trajet? Comment tu es emmené? Tu es emmené en train?
C'est la DGSI, elle va l'opérer, ouais. Et du coup, ouais, on est emmené en train. Alors, on fait une étape par un hôpital pour une étude, voir si on est apte à aller se faire torturer dans les locaux de la DGSI. Et puis, nous emmène en voiture. On est allé en voiture jusqu'à Bordeaux. Et du coup, on a traversé toute la gare. On a pris un train de passage est classique, quoi. Donc au début, on était dans un wagon rempli d'usagers de la SNCF. Moi, j'avais une bonne beubare à cette époque. C'était en plein milieu du Covid. Du coup, ils nous avaient foutu un masque anti-Covid. Moi, toutes les 5 secondes, j'avais le masque qui me remontait dans les yeux. Enfin, ils nous tiennent penchés en avant avec le blouson sur la tête pour pas que les gens puissent voir nos visages. Camisolés de force. Enfin, c'était un passage assez étrange, ces traversées de gare. Au premier arrêt du train, ils ont vu avec des agents SNCF et du coup, ils nous ont trouvé un wagon libre de tout usager. Du coup, on était vraiment que nous deux avec ceux qui nous ont arrêtés, quoi. On est arrivé sur Paris de nuit. Et là, c'est à ce moment-là où on a été séparés avec le collègue. Ils nous ont fait monter tous les deux dans une voiture différente. Et là, on a fait une traversée de Paris à toute berzingue, gyrophare allumé. Et au bout de, je pense, 10-15 minutes de traversée de Paris, on m'a mis un sac sur la tête, un sac obstruant. C'est un sac qui ne filtre que la lumière, du coup, vraiment, on voit juste la lumière, on voit rien d'autre. Et donc là, on est brinque-ballé, on sait pas du tout où on va. Je suis encore dans un parking souterrain. On m'emmène dans des couloirs et puis on m'enlève le sac devant une cellule, quoi. Et du coup, voilà, c'est mon arrivée en garde à vue.
Et là, tu te dis, j'imagine que le malentendu va peut-être pas s'éclaircir tout de suite.
Là, à ce moment-là, moi, je me dis plus grand-chose. Ouais. À partir du moment où je suis dans le train, mon cerveau, il s'est éteint. Et vraiment, j'ai le cerveau complètement anesthésié. J'entends mon pote qui parle avec les agents, enfin les gars qui nous ont arrêtés. Et moi, je sais que là, je suis complètement en état de choc, de sidération, et je ne peux rien dire. Là, je comprends plus rien. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, j'ai fait un gros travail. Mon cerveau a vraiment oublié ma garde à vue pendant un moment. Et j'ai fait un gros travail pour essayer de me rappeler ce qui s'était passé là-bas. Vraiment, j'étais dans un gros, gros état de sidération.
Il t'interroge combien de temps après ?
Alors, du coup, ça, c'était la première étape. On nous fout en cellule, et moi je pense que j'ai attendu quelque chose comme une heure et demie. Et du coup, premier interrogatoire, c'est au bout d'une heure, une heure et demie en cellule. Premier interrogatoire, il est assez particulier parce que on s'est fait arrêter à 6 heures du matin. De la journée, on n'a rien bu ni mangé. Et le premier interrogatoire doit se passer, j'imagine, entre 23h et minuit. Ouais. Donc ça fait plus de 24 heures qu'on n'a rien bu ni mangé. Et on se retrouve en face d'un gars qui nous pose des questions, quoi.
Est-ce que, du coup, tu as souvenir des questions qu'on t'a posées dans ce premier interrogatoire ?
On sait que le premier interrogatoire, en fait, c'est vraiment un interrogatoire